Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Laetatus sum in hisque dicta sunt mici, in domum Domini ibimus. Je me suis réjoui en ce qui m'a été dit, nous irons dans la maison du Seigneur. Nous chantons ces paroles deux fois pendant cette messe. Ce sont des paroles reprises d'un psaume que chantaient les pèlerins qui allaient à Jérusalem dans l'Ancien Testament. Et ces paroles traduisent la joie qu'éprouve l'âme fervente dans l'accomplissement de ses devoirs religieux. Et nous, est-ce que ce matin nous nous sommes réjouis d'aller dans la maison du Seigneur? Ou est-ce que quelquefois nous allons à la messe en traînant les pieds? Si ce devoir nous paraît lourd parfois, il faut nous rappeler que les préceptes de Dieu ne sont pas des caprices arbitraires d'une divinité aveugle. Ces préceptes sont toujours justes en eux-mêmes, et ces préceptes sont statués pour notre bien propre, nous aussi. Nulle part, cette vérité n'est plus manifeste que dans ce précepte dominical, qui consiste à s'abstenir des œuvres serviles pour venir à la messe et pour s'occuper des choses spirituelles pendant la journée. Nous verrons d'abord que ce précepte est juste et ensuite nous verrons les bienfaits de ce précepte pour nous-mêmes. D'abord, il est juste. Dieu est le Créateur et le Seigneur de tout ce qui existe. Il a un droit rigoureux sur tous les jours de la semaine. Domini est terra et plenitudo eius. Ô Seigneur et la terre et tout ce qu'elle renferme. Tout appartient au bon Dieu. Il aurait pu exiger qu'on lui consacre chaque jour de la semaine. Mais dans sa condescendance, il nous a laissé une part, et même une très large part de la semaine, pour vaquer à notre vie matérielle. Donc, il aurait pu nous donner un temps plus ou moins grand pour vaquer à notre vie matérielle, mais il n'aurait pas pu, ça aurait été contre nature, pour un Dieu infiniment sage et infiniment juste, de ne rien se réserver pour lui-même, parce que c'est lui le maître de l'univers. Donc, la loi naturelle exige que les hommes laissent le travail de temps en temps pour se tourner vers Dieu, pour l'adorer, pour le louer. Et c'est pourquoi, dès le commencement du monde, Dieu a consacré le septième jour au repos. Nous lisons dans la Genèse, « Dieu se reposa le septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite, et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour-là, il s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. » Donc ce jour-là, même avant le péché originel, l'homme devait abandonner ses propres occupations pour louer Dieu au nom de toute la création. Le cardinal Pie a de très beaux passages sur le repos dominical, et en parlant d'Adam avant le péché originel, il dit « Créés à la fin du sixième jour, Adam et Ève s'éveillèrent en quelque sorte dans le jour du Seigneur. Adam, innocent, avait appris de l'action et de la parole divine le précepte de la sanctification du septième jour. Occupé les autres jours, non pas à travailler, car le travail suppose la peine, le labeur, mais à agir, à opérer, à conserver, ut operaretur ut et custodiret. Il devait cesser en ce jour-là toute action manuelle et se livrer tout entier à la contemplation et au service de son divin auteur, Pour lui, le septième jour n'était point le délassement d'une fatigue, c'était un doux repos en Dieu. Plus tard, sous la loi de Moïse, ce précepte est solennellement réaffirmé pour le peuple hébreu et sanctionné d'ailleurs par des mesures les plus strictes. Celui qui violait le repos du sabbat devait être lapidé. Pourquoi une telle sévérité? Parce que ce repos sacré renferme en lui-même toute la religion. Il exige une organisation de la société qui devient, par le fait même, un témoignage de la soumission due à Dieu, non seulement de la part des hommes individuels, mais de la part de toute la nation, en tant que nation. Dieu dit au peuple hébreu par l'intermédiaire de Moïse, « Ne manquez pas d'observer mes sabbats, car c'est entre moi et vous un signe pour toutes vos générations, pour que vous sachiez que c'est moi, Yahvé, qui vous sanctifie. » Donc c'est un signe extérieur pour que tout le monde voit qui sont soumis à Yahvé, qui adorent le vrai Dieu. Et là aussi, le cardinal Pie, il a dit un beau passage. Cette loi du dimanche, en effet, est à elle seule toute une législation. L'observation de cet unique précepte conduit directement et comme nécessairement à l'observation de tous les autres préceptes. Le dimanche est la clé de voûte de tout l'édifice religieux et social. Pas une vérité dogmatique, pas une loi morale, pas une pratique utile qui ne soit liée à la sanctification du dimanche. En sorte que la profanation du dimanche est le renversement absolu de toute l'économie chrétienne. Et c'est pourquoi, évidemment, les mesures récentes libéralisant le travail du dimanche sont une offense très grave contre la majesté divine. Ces lois sont aussi contre nature que les lois qui détruisent le mariage. Alors, avant de voir comment ce précepte procure des bienfaits pour l'homme lui-même, un petit mot sur les modifications de ce précepte apportées par le christianisme. Parce que ce n'est plus le sabbat, c'est-à-dire le samedi, mais c'est le dimanche qu'il faut sanctifier. Le devoir de sanctifier un jour sur sept est une loi divine que les hommes ne peuvent pas changer. Mais l'Église avait le pouvoir de changer le jour choisi. Le monde a été créé un dimanche et il a été restauré, recréé le dimanche de la résurrection de notre Seigneur. Et puis l'Église a aussi statué l'assistance à la messe en ce jour, ce qui est aussi parfaitement juste. Le cardinal Siri fait remarquer dans une de ses exhortations que le fait même que notre Seigneur ait institué la Sainte Eucharistie entraîne l'obligation d'y participer, parce que ce serait un outrage inouï de refuser de participer à un tel don. L'Église n'a fait que fixer la fréquence de cette participation. Donc voyons maintenant les bienfaits pour l'homme du repos dominical. Nous avons vu que l'accomplissement de cette loi est l'acquittement d'un devoir de justice envers Dieu, mais il est aussi quelque chose qui procure de grands biens pour l'homme. D'abord, en ce qui concerne le repos exigé, il faut nous rappeler que cette loi nous a été donnée par celui qui a façonné notre corps. Qui mieux que lui peut savoir ce qui nous convient? Et là, le cardinal Pie dit avec son bon sens habituel, « L'horloger sait mieux que personne après combien de jours il est nécessaire de remonter l'instrument sorti de ses mains. » Et la science moderne est venu confirmer cette réflexion du bon sens. Ces dernières années, des chercheurs de l'Allemagne, de l'Amérique, de la France, du Japon, du Brésil et ailleurs ont décelé des cycles de 7 jours dans les diverses fonctions biologiques chez beaucoup d'êtres vivants, depuis les algues et les microbes jusqu'à l'homme, en passant par les abeilles, les mouches, les araignées, les rats et les souris. C'est ce qu'on appelle des rythmes circasseptains, c'est-à-dire des rythmes ou des cycles basés sur le chiffre 7. Et c'est particulièrement frappant chez l'homme. Des rythmes de 7 jours ont été découverts par rapport aux défenses immunitaires, par rapport au métabolisme, la production des hormones, la fréquence cardiaque et la température corporelle. Et puis les études sur les résultats scolaires ont montré une augmentation des capacités de concentration et de mémorisation chez les enfants soumis à un régime de travail de 6 jours continus coupé par 1 jour de repos. Et s'il reste quelques doutes, les révolutionnaires modernes se sont chargés de nous apporter la preuve par le contraire. Parce que la République, après la Révolution, a voulu instituer la décade, une sorte de semaine de 10 jours, et puis les Russes aussi ont essayé d'inventer une semaine de 6 jours, et l'une et l'autre de ces tentatives ont tous les deux échoué misérablement. Donc, le repos du dimanche est en harmonie avec notre nature corporelle. Mais aussi, et on pourrait dire surtout, il est un facteur d'éducation spirituelle qui élève les âmes et la société même. Le repos dominical empêche les hommes de sombrer dans un matérialisme abrutissant. Car il ne faut pas l'oublier, ce repos a un but. Il sert à libérer nos esprits pour penser à des choses plus spirituelles. Écoutons cette invitation pressante du cardinal Pie. Venez, ô vous, le député et l'interprète de la création. Venez courber devant Dieu cette tête qui pendant 6 jours a présidé aux choses d'ici-bas. Venez vous associer à la prière et à l'immolation du divin Rédempteur. Venez répandre devant le tabernacle du Dieu vivant vos adorations, vos actions de grâce, vos larmes d'expiation, vos invocations suppliantes. Venez entendre la parole sainte qui entretiendra, qui ravivera la lumière de la foi dans vos cœurs, qui fera éclore et fleurir les vertus dans vos âmes. Venez apprendre à aimer et à servir Dieu, à aimer et à servir vos frères, à faire un noble emploi de toutes les choses créées, à dompter vos passions, à vaincre vos faiblesses. Venez accroître et réparer vos forces, venez profiter des remèdes, venez prendre les aliments que l'Église, votre mère, tient entre ses mains. Et puis un peu plus tard, peut-être le travail pénible auquel l'homme est assujetti, les soins, les tourments de la vie, lui avait-il fait négliger plusieurs de ses devoirs envers Dieu durant les six autres jours. Peut-être son âme allait en quelque sorte se laisser opprimer par le corps, dépravée par les sens. Mais voici que le dimanche a corrigé, réparé en lui les oublis, les infractions de la semaine. Tout ce qui dormait dans son âme s'est réveillé. Sa foi, son espérance, son amour se ranime. Il prend de généreuses résolutions. Donc c'était un peu long, mais là tout est dit. On voit que le dimanche, c'est pas uniquement la simple présence physique à l'église, considérée comme une corvée qu'on doit accomplir un peu malgré soi. C'est une activité qui nous ennoblit, qui nous fait sortir du monde matériel auquel appartient notre corps, pour nous faire entrer, quelques instants du moins, dans ce monde spirituel auquel appartient notre âme. Évidemment, quelques conclusions pratiques s'imposent. Avant tout, il importe d'éviter les œuvres serviles le dimanche. Il y a des travaux nécessaires à la maison qui sont permis, pourvu qu'ils ne prennent pas trop de temps. Mais il faut que nous nous examinions loyalement devant Dieu pour savoir si vraiment tel travail est vraiment nécessaire ou s'il ne peut pas être effectué la veille ou le lendemain. Ensuite, il faut préparer notre messe dans notre missel et être bien à l'heure et bien endimanché. Mais cela, c'est le minimum. Nous ne suivrions pas l'esprit de la loi si nous nous contentions uniquement de ça. Il faut consacrer un peu de temps à des activités qui élèvent nos pensées, vers le bon Dieu, ou qui solennisent un peu le dimanche. Ça peut être le chapelet dit en famille avec un peu plus de solennité, ou de lire le symbole de Saint Athanase, lire un peu du catéchisme, que le père de famille fasse un peu de catéchisme à ses enfants. Ça peut être une lecture de l'histoire sainte, la lecture des vies des saints, et puis aussi des actes de charité. D'abord, la charité en famille, envers nos plus proches. Le jour du dimanche, il doit régner dans la maison une atmosphère de charité plus marquée que les autres jours. Et puis à l'occasion, la visite des malades ou des personnes seules. Les vêpres, bien sûr, pour ceux qui ont la possibilité. Et pour ceux qui sont un peu plus loin, au moins essayer de le faire de temps en temps, surtout pour les grandes fêtes. Nous sommes aujourd'hui le jour de la fête de Notre-Dame de la Salette. Et nous savons avec quelle tristesse Notre-Dame s'est plainte de la violation du repos dominical, en disant que c'est cela qui rendait le bras de son fils très lourd. Elle avait du mal à retenir le bras de son fils, qui était prêt à nous châtier. Donc faisons un effort pour bien sanctifier le dimanche, déjà pour faire réparation pour nos négligences dans le passé, et puis aussi pour réparer et pour consoler notre Seigneur pour toutes ces abominations contre ces lois contre le repos du dimanche. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.